de suite le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous irons tout d'abord en Algérie où des centaines d'étudiants protestent à nouveau depuis ce matin sur un campus du centre de la capitale, comme lors des rassemblements des jours précédents. Le mot d'ordre reste le même, non au cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika.
L'Inde a annoncé avoir bombardé cette nuit un camp d'entraînement islamiste au Pakistan et affirme avoir tué quelques 300 djihadistes présumés.
Oui, un bilan que le Pakistan dément. Seule certitude, ces frappes aériennes ont été menées contre un camp d'entraînement du groupe terroriste qui a revendiqué l'attentat suicide perpétré le 14 février dernier contre un convoi de la police paramilitaire indienne au Cachemire.
Dans votre journal également, le ministre iranien des Affaires étrangères, architecte de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire, a annoncé hier soir sa démission.
Il était considéré comme un modéré, mais également la cible des ultra-conservateurs depuis que Donald Trump a dénoncé cet accord et que des sanctions ont de nouveau été imposées à la République islamique. À 77 ans, le cardinal australien George Pell a été jugé coupable ce matin de 5 chefs d'accusation d'abus sexuels pour des faits commis sur deux mineurs à la fin des années 90. Ancien conseiller du pape François, il était aussi le trésorier du Vatican.
Et puis un nouveau parti politique en France, son nom, Picardie Debout.
Cette association vient d'être lancée par le député de la France insoumise, François Ruffin. Enfin, faute de garantie sur le financement de l'opération, le gouvernement a officiellement écarté ce matin le groupe Altifort du projet de reprise de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Les autorités se donnent un mois supplémentaire pour trouver un nouveau repreneur. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Des fermes à clics aux nettoyeurs du web. On va revenir sur tous ces travailleurs en coulisses de la grande machinerie qu'est Internet, qu'est aussi l'intelligence artificielle, avec le sociologue Antonio Casilli, auteur de « En attendant les robots » qui vient de paraître au Seuil.
Merci et à tout à l'heure. Si depuis quelques jours le cri de colère de la rue algérienne semble s'être affranchi de la peur de manifester contre l'ordre établi, que faut-il déduire de ce vent de révolte inédit? Sont-ce là les prémices d'un printemps algérien, seule certitude? En renvoyant hier le mouvement social au verdict des urnes, le régime d'Abdelaziz Bouteflika lui a clairement répondu qu'il n'était pas disposé à céder à la pression populaire. Pas de quoi pour autant décourager les Algériens qui descendront à nouveau dans la rue aujourd'hui. Désormais, la question lancinante est donc celle-ci. En traçant sa voie vers la liberté, ce mouvement historique a-t-il une vraie chance de faire renaître ce néologisme politique popularisé lors du printemps arabe, le dégagisme? Rien n'est moins sûr, car pour pouvoir espérer faire de son rêve d'alternance une réalité, cette soudaine irruption de véritable démocratie devra encore s'affranchir de la mémoire des années du terrorisme islamiste, mais aussi compter tant sur une opposition morcelée que sur des partis proches du pouvoir. Reste toutefois l'espoir. Donc Valérie Crova a joint au téléphone Sabrina Ramani, médecin et membre de l'Observatoire citoyen algérien, une plateforme de veille citoyenne indépendante.
C'est vraiment une espèce de tragédie que de voir pour la cinquième fois un homme extrêmement diminué se représenter. Et il donne l'image de cette Algérie qui n'est pas capable de se régénérer. Le mot d'ordre qui a été entendu à travers toute l'Algérie, et ça c'est exceptionnel à souligner, c'est que c'était un rejet du cinquième mandat, mais aussi un rejet du système qui fait le cinquième mandat. Ça c'est très important. Il faut bien savoir, et ça on tient à le dire, que les Algériens ont été unis. Il faut bien savoir qu'à travers le rejet de Bouteflika, c'est le rejet d'un système qui a institutionnalisé la corruption, qui n'a pas permis à l'Algérie de se développer comme il fallait, aussi bien humainement qu'économiquement. On nous propose la même alternative. C'est un peu difficile à accepter. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un signal fort aussi, que la candidature de Bouteflika soit retirée. C'est important. Aujourd'hui, plus de 45% de la population algérienne a moins de 25 ans. Il leur faut un message fort. Ils ont besoin de voir dans leur pays un avenir prometteur. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça que le rôle aujourd'hui des élites est fondamental. Et c'est pour ça qu'il va falloir se réunir très vite. Et c'est pour ça qu'il va falloir réfléchir à créer une alternative. On ne peut pas rester dans cet état de fait. Le pouvoir doit aussi comprendre qu'il a une responsabilité et qu'il n'est pas question de laisser ces manifestations perdurer jusqu'au pourrissement. Ça, aucun Algérien ne le veut. Le peuple algérien a assez souffert. Il n'est pas question, mais il n'y aura pas question que nous dérivions vers ce qu'on a appelé le printemps arabe. Nous avons vécu toutes les saisons.
Sabrina Ramani, membre de l'Observatoire citoyen algérien, elle répondait à Valérie Crova. Huit ans après la tempête des printemps arabes, les Balkans se retrouvent à leur tour secoués par une vague de contestations inédites au Monténégro, en Serbie, en Albanie, partout les citoyens dénoncent tant le népotisme que la corruption généralisée, sans pour autant d'ailleurs accorder véritablement plus de confiance aux formations d'opposition. Parce qu'on ne compte plus les atermoiements et autres palinodies britanniques autour du Brexit, le leader de l'opposition Jeremy Corbyn, pourtant réticent jusqu'ici à l'idée d'un second référendum, a annoncé hier soir qu'il allait finalement soutenir un amendement dans ce sens, une manière sans doute pour le patron du Labour de ne pas prendre le risque de voir son parti tenu pour responsable en cas de possible sortie du Royaume-Uni de l'UE sans accord. De son côté, l'Union européenne, par la voix du président du Conseil européen Donald Tusk, a ouvert hier la porte à un report de la date du Brexit fixée au 29 mars. New Delhi les appelle les camps de la terreur. Situés sur le territoire pakistanais, ces camps d'entraînement de l'armée de Mahomet, un groupe islamiste insurgé qui le 14 février dernier a revendiqué un attentat suicide contre un convoi de paramilitaires dans la région himalayenne du Cachemire, a été visé cette nuit par des frappes de l'aviation indienne. 300 islamistes présumés auraient été tués dans ce bombardement. C'est en tous les cas ce qu'on affirme ce matin dans l'entourage du gouvernement indien. De son côté, le Pakistan, tout en niant le bilan de cette opération, condamne l'incursion de son voisin dans son espace aérien. Les précisions d'Antoine Guinard.
Le raid aura duré en tout un peu moins de 20 minutes selon l'armée indienne. Peu avant 4h du matin ce mardi, 12 avions de chasse Mirage 2000 ont franchi la ligne de contrôle, frontière de facto entre l'Inde et le Pakistan, et lancer des bombes guidées par laser sur plusieurs camps d'entraînement du Jaïch-e-Mohammed. Le secrétaire d'État indien aux affaires étrangères, Vijay Gokhale, a déclaré en conférence de presse que ces frappes chirurgicales avaient tué, je cite, « un grand nombre de militants armés, ainsi que plusieurs cadres de cette organisation terroriste ». Monsieur Gokhale a ajouté que selon les renseignements indiens, le Jaïch-e-Mohammed préparait d'autres attentats suicides en Inde, après celui du 14 février, qui a tué une quarantaine de militaires indiens au Cachemire. De son côté, le Pakistan a livré une autre version des faits. Le porte-parole de l'armée, le général Asif Ghafour, a assuré que ces frappes n'avaient fait aucune victime et que les pilotes indiens avaient été forcés de faire rapidement demi-tour, lâchant leurs bombes sur une zone déserte. L'ensemble de la classe politique indienne a salué ces frappes chirurgicales, largement perçues comme une réponse ferme et juste à l'attentat meurtrier contre les troupes indiennes au Cachemire. Le Premier ministre Narendra Modi s'est présenté triomphant devant la foule lors d'un rassemblement dans la région du Rajasthan. Il a déclaré que l'Inde était, je cite, « dans de bonnes mains » après cette opération. Monsieur Modi avait prévenu, dès le lendemain de l'attentat au Cachemire, que l'Inde rendrait la monnaie de sa pièce au Pakistan, accusé d'abriter et de soutenir le Jaïch-e-Mohammed et d'autres organisations terroristes hostiles à l'Inde.
Les pourparlers de paix entre les Américains et les talibans ont repris hier au Qatar avec une rencontre considérée comme la plus élevée depuis le début de ces négociations entre d'un côté l'envoyé spécial des États-Unis et de l'autre un influent dirigeant longtemps considéré comme le numéro 2 de l'ex-chef taliban, le Mollah Omar. De son côté, l'ONU a publié, c'était dimanche dernier, un rapport alarmant dans lequel on apprend que 3804 Afghans ont perdu la vie en 2018, un record majoritairement imputable aux attentats provoqués non seulement par les talibans mais aussi les terroristes de l'organisation État islamique. Diplomate expérimenté, il avait passé une grande partie de sa vie aux États-Unis, ce qui le rendait hautement suspect aux yeux des ultra-conservateurs. Mais surtout, Mohammad Javad Zarif avait été le négociateur en chef côté iranien de l'accord conclu à Vienne en juillet 2015 pour mettre fin à 12 années de crise autour de la question nucléaire. Et hier, à 59 ans, l'homme qui dirigeait la diplomatie iranienne a finalement démissionné. Alors ces derniers mois déjà, après la décision du président américain Donald Trump de retirer unilatéralement son pays du pacte nucléaire, Zarif avait vu les critiques s'intensifier contre lui. Sont cela les seules raisons possibles de sa démission? Élément de réponse avec Christian Chénaud.
Il était la bête noire des durs du régime. La démission de Mohammad Javad Zarif sonne comme une défaite pour le camp des modérés. Le retrait américain de l'accord sur le nucléaire, signé le 14 juillet 2015 à Vienne, a sans aucun doute précipité sa perte. Depuis le début des négociations avec les grandes puissances, les opposants à cette ligne d'ouverture en direction de l'Occident n'ont cessé de critiquer un accord qui, selon eux, a non seulement bradé les intérêts de la République islamique, mais n'a pas permis d'améliorer la vie quotidienne des Iraniens. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le camp des modérés incarné par Mohammad Javad Zarif était sous pression, de plus en plus gêné pour justifier un dialogue avec les Occidentaux perçus comme stériles par beaucoup d'Iraniens. Plusieurs dossiers clés de la politique étrangère lui échappaient, et notamment celui de la Syrie géré par les Pasdaran, les gardiens de la révolution qui rapportaient directement au guide suprême Ali Khamenei. Mohamed Javad Zarif n'a donné aucune explication à sa démission, mais la presse iranienne croit savoir que la visite éclair de Bachar el-Assad à Téhéran n'y serait pas étrangère. En effet, le ministre n'a été convié ni à l'entretien du raïs syrien avec le président Rouhani, ni à celui avec le guide suprême. Marginalisé, Zarif se retire à un moment délicat pour l'Iran. L'économie est en grande difficulté, asphyxiée par de nouvelles sanctions qui concernent les exportations de pétrole. C'est aussi une perte pour les Européens qui avaient pris l'habitude d'échanger avec ce diplomate affable et cultivé.
Donald Trump retrouvera ce soir le dictateur nord-coréen Kim Jong-un au Vietnam pour tenter de boucler les tractations menées depuis leur premier sommet l'été dernier. Tous les scénarios sont encore possibles, paix ou rupture, nouvelle déclaration d'intention ou accord concret. Selon un nombre d'observateurs américains, le principal risque serait une répétition du sommet de Singapour l'été dernier lorsque Kim Jong-un s'était engagé à aller vers une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne sans calendrier ni modalité. Ce ne sont d'ailleurs pas là les seuls inconnus entourant cette rencontre. Les précisions à Hanoï de notre envoyé spécial Dominique André.
Tout a commencé par le choix de la ville. Les Américains préféraient que le sommet soit organisé à Da Nang, cité économique et technologique sur la côte Est, mais les Nord-Coréens ont exigé que le sommet soit hébergé à Hanoï. Kim Jong-un a ensuite décidé de venir au Vietnam en train. Parti samedi, arrivé aujourd'hui, comme le fit son grand-père il y a 60 ans, plus de 60 heures de trajet, tandis que le président américain a pris l'avion, un mode de transport beaucoup plus conventionnel. Dès que le jeune dirigeant nord-coréen a mis les pieds à Hanoï, ses services ont exigé le départ de la délégation de journalistes de la Maison Blanche qui avait installé son centre de presse dans l'hôtel où dormira Kim. Le programme est entouré de mystères. Personne ne sait ce que va faire Kim Jong-un. Il est question qu'il visite des usines et un port industriel vietnamien pour s'inspirer du modèle économique local. Mais on vient de voir sa limousine entrer dans l'enceinte de l'ambassade de Corée du Nord à Hanoï. Le Vietnam est l'un des rares pays à avoir des relations diplomatiques à la fois avec la Corée du Nord et les États-Unis. Dernière inconnue de taille, le lieu du sommet va-t-il se dérouler au palais du Tonkin, ancienne résidence des gouverneurs de l'Indochine française à l'époque coloniale, ou juste en face à l'hôtel Métropole, palace du groupe français Accor? Mystère, attendons demain.
Aux États-Unis, les démocrates comptent porter aujourd'hui le premier coup contre l'urgence nationale décrétée par Donald Trump en approuvant à la Chambre basse une résolution qui cherche à annuler cette disposition destinée à permettre la construction d'un mur anti-immigration à la frontière mexicaine. Dans les prochains jours, le texte arrivera ensuite au Sénat, contrôlé cette fois-ci par les républicains. Alors plusieurs d'entre eux ont déjà exprimé leur malaise face à la décision du président américain. Reste à savoir si leur grogne sera suffisante pour faire dérailler le projet de Donald Trump. À ceux qui se demandait si le sommet de crise de 4 jours au Vatican, au cours duquel le pape François a sévèrement condamné les abus sexuels sur des enfants par des prêtres, permettrait enfin de sortir de l'ère du silence. La condamnation ce matin par un tribunal australien du cardinal George Pell, reconnu coupable d'abus sexuels sur deux mineurs âgés de 12 et 13 ans au moment des faits, devrait permettre de se montrer optimiste quant à la fin possible de l'impunité au sommet de l'Église. Les faits remontent aux années 90, lorsque le prélat était évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Melbourne. Depuis, George Pell était devenu numéro 3 du Vatican et devient ainsi le plus haut responsable de l'Église catholique condamné dans une affaire de pédophilie. Les précisions à Rome de Marie Duhamel.
Les temps de l'Église s'accélèrent quelques heures seulement après la condamnation en Australie du cardinal George Pell pour abus sexuels sur mineurs dans les années 90. Le pape suspend aujourd'hui le grand argentier du Saint-Siège depuis 2014, en attendant qu'une décision judiciaire soit prise en dernière instance. Alessandro Gisotti est le directeur par intérim de la salle de presse du Saint-Siège.
Par mesure préventive, le cardinal Pell se voit interdit d'exercer publiquement son ministère. Et comme le prévoient les normes, il est interdit de tout contact sous quelque forme et de n'importe quelle nature, avec des enfants mineurs.
La mesure est temporaire car le cardinal Pell a fait appel de la condamnation prononcée à son encontre. Il clame son innocence. Le Saint-Siège réaffirme ce midi son respect total pour la justice australienne et à ce titre estime que George Pell a le droit de se défendre jusqu'au bout. Notons que pour l'instant, rien n'indique que l'Australien ne soit plus préfet du secrétariat pour l'économie, autrement dit ministre des Finances du Saint-Siège, bien qu'il n'occupe plus physiquement son poste depuis le mois de juillet 2017. Il s'était mis en congé et avait quitté Rome pour pouvoir se défendre.
Le tribunal londonien de Westminster a ordonné ce matin l'extradition vers la France de l'homme d'affaires franco-algérien Alexandre Djouri, protagoniste clé de l'enquête française sur le financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Alexandre Benalla et Vincent Kras, incarcérés depuis une semaine pour ne pas avoir respecté le contrôle judiciaire qui leur interdisait d'entrer en contact dans l'enquête sur les violences place de la Contrescarpe à Paris, vont à nouveau tenter aujourd'hui d'obtenir leur libération devant la cour d'appel de Paris. Les deux hommes, je vous le rappelle, sont mis en examen depuis le 22 juillet dernier dans l'enquête sur les violences commises en marge du défilé du 1er mai. La réforme de l'assurance chômage sera mise en œuvre l'été prochain. Ce matin, Édouard Philippe, accompagné de Muriel Pénicaud, présentait le calendrier de cette réforme. Il s'agira notamment de lutter contre le recours abusif aux contrats courts, mais aussi de corriger le système permettant aux salariés les mieux payés de percevoir une indemnisation très supérieure à ce qu'elle est ailleurs en Europe. Voilà donc en substance ce que le Premier ministre et la ministre du Travail ont annoncé ce matin. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au ministère du Travail. Alors, Édouard Philippe et Muriel Pénicaud entendaient préciser quel serait l'objet des rencontres, finalement, après l'échec de la négociation des partenaires sociaux sur le sujet. C'était la semaine dernière.
Oui, quatre grands axes s'annoncent dans cette concertation à venir. D'abord, la régulation des contrats courts. Le gouvernement a réaffirmé ce matin sa volonté de responsabiliser, je cite, les entreprises qui ont trop recours au CDD. Sans prononcer le terme, le Premier ministre a laissé la porte ouverte à l'instauration d'un bonus-malus, une modulation des cotisations chômage des entreprises en fonction du recours au CDD. Le sujet avait fait échouer la négociation car le patronat y est catégoriquement opposé. Le cadre d'économie reste le même, entre 3 et 3,9 milliards sur 3 ans. Et pour y arriver, la philosophie du gouvernement, c'est d'agir sur les règles de l'assurance chômage et les effets qu'elles produisent, avec l'idée qu'une partie d'entre elles maintiennent un certain nombre de personnes au chômage. Et là, trois sujets sont à l'agenda de l'exécutif. D'abord, les règles d'indemnisation et en particulier les conditions dans lesquelles il est possible de cumuler travail et allocation au cours d'un mois. Ensuite, le mode de calcul des indemnités. Pour l'exécutif, le système actuel permettrait à certains de gagner plus au chômage qu'en travaillant. Enfin, le niveau d'indemnisation. L'exécutif semble plaider pour une baisse du plafond, ce qui en pratique toucherait le chômage des cadres, avec l'idée qu'une indemnisation trop élevée ralentit le retour à l'emploi. Un diagnostic d'ensemble qui déjà ne fait pas consensus auprès des organisations syndicales et patronales. Cela fera partie des premières discussions. Elle débute cette semaine avec les numéros 1 des organisations. Ensuite, Thomas, le ministère du Travail, recevra leurs négociateurs, puis jusqu'au printemps, les associations et organisations non représentatives.
Merci Catherine Pétillon, en direct du ministère du Travail, ainsi qu'à Alexandre Abergel pour les moyens techniques. De la fusion ratée entre Alstom et Siemens à la reprise avortée hier de l'usine Ford de Blanquefort, décidément les déconvenues industrielles s'accumulent pour le gouvernement. Et pour tenter de stopper l'hémorragie, État, élus locaux et représentants des salariés ont convenu ce matin de se donner un mois supplémentaire pour trouver un repreneur dans un autre dossier, celui de la scierie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord, et ce après le désistement du groupe franco-belge Altifor, faute de fonds. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors en réalité, une audience de la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg est prévue demain pour acter donc la non-réalisation de ce plan de reprise, mais aussi constater le maintien de la procédure de redressement judiciaire pour le site, qui compte, on le rappelle, 281 salariés, ce qui signifie, Annabelle, que l'État espère toujours trouver un possible repreneur.
Oui, les choses sont maintenant claires. Altifor, qui n'a pas respecté ses engagements de débloquer les 35 millions d'euros nécessaires à la reprise du site, est désormais écarté du dossier. Altifor a trompé les salariés, les élus locaux et l'État, affirmé ce matin le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui, non sans amertume, vis-à-vis du groupe franco-belge, assurer les salariés de son soutien pour trouver un repreneur.
Ça vaut le coup de se battre pour Ascoval. Ça vaut le coup de se battre pour cette aciérie. Ça vaut le coup pour les salariés et ça vaut le coup économiquement puisqu'il y a aujourd'hui des commandes pour le site. Je mettrai toute l'énergie qu'il faudra pour trouver un repreneur et offrir une solution par le haut au site d'Ascoval. Oui, le sujet est difficile. Oui, l'acier, on le sait bien, est un marché extraordinairement compétitif. Les chances de réussite ne sont pas garanties, mais ça vaut le coup de se battre.
Alors malgré le temps perdu, le porte-parole de l'intersyndicale, Bruno Kopczynski, assure ne pas perdre espoir, fort des 47 millions d'euros de fonds publics toujours engagés par la région et l'État sous forme de prêts.
On repart à zéro. Première étape, c'est de passer l'audience du tribunal demain, d'obtenir la résolution, de redevenir Ascoval, de payer nos fournisseurs, de payer les salaires. Je pense que depuis le début, ça fait 5 ans, on n'a jamais perdu l'espoir et on va le garder jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est encore trop tôt, mais oui, il y a des industriels qui ont été recontactés, qui regardent le dossier de près. Je pense qu'ils avaient besoin d'avoir une vision claire, d'avoir ce message clair, de dire aujourd'hui Altifor n'est plus dans le dossier. Le dossier, c'est de nouveau Ascoval.
Un mois, c'est donc le temps imparti pour trouver un repreneur. Plusieurs candidats à la reprise se seraient déjà manifestés, des industriels, mais aussi des fonds d'investissement.
Merci Annabelle Grelier. C'est peut-être un nouveau parti dans le paysage politique français, à tout le moins. Un micro-parti, celui du député de la France Insoumise, François Ruffin. Picardie Debout, c'est son nom, a été officiellement déclaré en préfecture il y a quelques jours. Une nouvelle structure accompagnée d'une association de financement. Steven Goyer, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors du côté de l'équipe de François Ruffin, on explique qu'il s'agit simplement de donner un cadre juridique pour un mouvement qui existait déjà. Qu'en est-il exactement?
Et si Picardie Debout évoque déjà des souvenirs à certains d'entre vous, ce n'est effectivement pas un hasard, puisque c'est le nom du mouvement de soutien à la candidature de François Ruffin pour les élections législatives de 2017. Du côté de l'équipe de campagne, on explique donc que la nouvelle structure a juste vocation à offrir aux militants et aux sympathisants un cadre légal et officiel. La question qui se pose désormais, c'est pourquoi faire ? La réponse, on peut la trouver dans la description de la création de l'association déposée en préfecture le 12 février. D'après une information confirmée par nos confrères de Libération, Picardie Debout se donne pour objet, je cite, de faire vivre la démocratie par tous les moyens, l'organisation de soirées, débats, conférences, mais aussi publication ou présentation de candidats à toutes les élections. On est donc bien là dans l'idée de participer aux batailles électorales et de fait dans la description d'un micro-parti. Et les choses ont effectivement été faites dans les règles avec la déclaration en parallèle le même jour d'une association de financement de Picardie Debout, avec un avantage non négligeable désormais, celui de pouvoir recevoir des dons pour financer les fameuses campagnes électorales, mais toujours plafonnées depuis la loi sur la transparence de la vie publique de 2013 à 7 500 € par an et par personne. Autre avantage plus politique cette fois, avec la création de ces deux associations, l'électron libre de la France Insoumise, comme il se définit lui-même, possède désormais sa propre machine partisane, manière de montrer à nouveau son autonomie parmi les troupes de Jean-Luc Mélenchon, même si avec le nom Picardie Debout, on ne devrait pas tout de suite observer une ruée sur des élections nationales.
Merci Steven Goyer. It's a shame. Such a shame. Jamais, sans doute, cette locution anglaise n'aura été mieux employée en la circonstance que depuis qu'on a appris la mort cette nuit de l'auteur de ce tube interplanétaire au son pop synthétisé, Mark Hollis, chanteur et membre fondateur de l'un des groupes phares du mouvement New Wave au début des années 80, Talk Talk. Sauf que, s'il serait dommage évidemment de réduire l'œuvre de Mark Hollis à cette chanson, tant l'artiste n'aura cessé de chercher à désagréger la pop et à multiplier en réalité des trajectoires à contre-courant de l'industrie des hit parades, du post-rock jusqu'à des odyssées sonores marquées par l'improvisation, voire la contemplation comme ici avec After the Flood. En 1991, Mark Hollis avait déclaré « Il ne reste aujourd'hui qu'une seule chose importante sur mes disques, c'est le silence ». Et 7 ans plus tard, son art de l'effacement l'avait même conduit à disparaître totalement de la scène publique, non sans avoir publié un ultime album solo intitulé tout simplement « Mark Hollis ». So the bridges that I burned before, one song among us, oh. Color of Spring, donc signé Mark Hollis, dont on a appris le décès hier soir. On termine avec un mot rapide de météo. Le soleil brillera encore généreusement sur l'ensemble de l'Hexagone cet après-midi. Quant aux températures, toujours exceptionnellement douces, elles seront comprises entre 15 et 25 degrés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Fiona Mogadam pour le prochain journal de la rédaction.